Bonjour frères et sœurs et bon sabbat. Avez-vous déjà considéré comment vous vous sentiriez si vous perdiez lui? Ou encore plus difficile à imaginer peut-être, si vous n'aviez jamais pu entendre de votre vie? Pendant 30 ans, mon père a travaillé à un institut pour les sourds et les aveugles. Tous les jours, il passait du temps avec des personnes qui avait ni lui ni la parole. Je me souviens de plusieurs visites avec lui sur le terrain à son travail. Un jour, une chose m'a frappé quand j'observais mon père à son travail. Il signait avec des élèves qui passaient dans le couloir et son collègue l'a approché. Puis je vis qu'il signait et parlait l'un avec l'autre en même temps. Pour moi, c'était bizarre. C'était bizarre de voir deux hommes qui n'étaient pas sourds signer ensemble et parler en même temps. Plus tard dans la journée, j'ai demandé à mon père pourquoi il signait avec son collègue. Il m'a expliqué que c'était une chose impolie de discuter devant les sourds à l'école sans signer. D'après mon père, les élèves risquaient de se sentir exclus s'ils n'étaient pas capables de comprendre un peu le discours en langue des signes. C'était comme si quelqu'un en disait des secrets devant leurs yeux. Reportons-nous à l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Nous lisons ici la parabole du semeur et son explication par Jésus à ses disciples les plus proches. Après avoir proclamé la parabole du semeur, Jésus s'exclame au verset 9, Matthieu 13 et le verset 9, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Les disciples de Jésus l'ont demandé pourquoi il en parlait ainsi. Considérons maintenant l'explication profonde par Jésus qui répondit à ses disciples. Au verset 11, Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Voilà un passage plein d'instructions, merveilleux, qui nous instruit sur le plan de salut. Ce n'est pas son objectif, que tout le monde comprenne aujourd'hui. Continuons à lire ce passage au verset 16. « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » La parole de Dieu, est-elle précieuse à nos oreilles et à nos yeux? Si beaucoup de prophètes ont désiré entendre ce que nous entendons, estimons-nous la parole de Dieu autant que nous le devrions? Qu'est-ce qui fait qu'on a des oreilles pour entendre? Aujourd'hui, dans le contexte de ces questions, considérons l'importance d'avoir des oreilles pour entendre. Reportons-nous maintenant à 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 9. Paul écrit au verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Ici, Paul explique que par l'Esprit, on peut avoir accès à la compréhension des profondeurs de Dieu, des promesses de Dieu, la vérité des choses concernant la vie et l'avenir, des choses profondes. Considérons quelque chose de profond et quelque chose qui a été dit à ancien Israël en Deutéronome chapitre 6. Nous avons l'exemple ici de quelque chose qui est répété souvent par les Juifs pratiquants et quelque chose qui, d'après la parole de Dieu, demande qu'on entende et qu'on écoute bien l'instruction de l'Éternel. Ici, c'est quelque chose qui concerne la profondeur de Dieu. Deutéronome 6 et le verset 4. En fait, on appelle ce passage le schéma. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Voici, on voit que le cœur est l'ultime destination de l'instruction divine. Ici, c'est mentionné les commandements, la loi de Dieu, les préceptes, les jugements, les statuts. C'est le cœur qui est l'ultime destination pour ces choses. Bien sûr, elles passent par les yeux ou par les oreilles pour arriver au cœur. Les versets 7 à 9 contiennent des exemples pratiques de comment mettre, commettre les commandements au cœur. Mais maintenant, reportons-nous à Hébreux chapitre 4. N'oublions pas que l'instruction passe par la foi aussi. Ça passe par les yeux ou les oreilles. On entend la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu, mais il faut aussi la foi pour la compréhension. Donc, reportons-nous maintenant à Hébreux, chapitre 4. Vers la fin du chapitre 3, ceux dont nous venons de lire en Deutéronome sont mentionnés comme ceux qui ont entendu, mais qui ne sont pas entrés dans la terre promise. Hébreux, chapitre 4 et le verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. C'est sûr que ceux qui ont entendu n'avaient pas eu la foi ici. Donc, les choses sont passées par les yeux, sont passées par les oreilles, ils ont quand même vu des miracles, et ils ont quand même entendu la voix de Dieu, ils ont entendu la tonnerre aussi, et aussi Moïse qui parlait au peuple d'Israël, mais ces choses ne sont pas arrivées à leur destination prévue. Ces choses ne sont pas arrivées au cœur. On connaît aussi des exemples dans le 11e chapitre de Hébreux, qui nous implique aussi, qui nous explique l'importance de la foi. Pour plaire à Dieu, il faut la foi. Donc, avec ces quelques passages, nous voyons déjà mieux pourquoi le monde ne comprend pas la parole de Dieu. L'apôtre Paul déclare dans son épître à Corinthe que l'Évangile est encore voilé pour ceux qui périssent, ceux qui sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Pour notre discussion aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont assourdis. Le cycle annuel de jours saints, défini en Lévitique 23, nous enseigne que le plan de Dieu se fait étape par étape. Et l'étape dans laquelle nous nous trouvons, c'est l'appel des prémices et la préparation de l'Église pour le retour de Jésus-Christ à la dernière trompette. C'est ça notre place dans l'histoire. C'est ça où se situent les membres de l'Église aujourd'hui. Et l'état de l'humanité aussi. Aujourd'hui, ceux qui ont des oreilles à entendre sont censés de croître spirituellement, de tendre à la perfection. Pour ceux-ci, la parole de Dieu est très claire quand il s'agit de ce que Dieu attend d'eux. La Bible contient de nombreux exemples de ceux qui, soit écoutaient l'Éternel, soit ne l'écoutaient point. Nous qui comprenons l'instruction de Dieu, sommes-nous prêts à la suivre? Son instruction atteint-elle le cœur? Quand nous lisons son instruction, quand nous étudions sa parole, quand nous entendons sa parole prêchée, c'est quoi la destination finale de cette instruction? Proverbes chapitre 3, versets 5 à 7. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 7. Verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est sûr que souvent l'homme, même si nous sommes appelés, même si nous avons l'aide avec l'Esprit Saint, même si nous avons la foi, souvent on retourne au fait que l'homme s'appuie sur sa propre sagesse. Ça nous arrive tous. Donc, avec le temps qui nous reste, considérons trois choses auxquelles nous avons besoin d'écouter afin de continuer sur le chemin qui mène à la vie éternelle, la voie de vie. Parce que il ne faut pas qu'on entende sans vraiment écouter. Il ne faut pas qu'on s'appuie sur sa propre sagesse. D'abord, nous avons l'appel de Dieu. Il faut bien écouter l'appel de Dieu. C'est quand même quelque chose de très inspirant, très encourageant, quand nous, en tant que chrétiens, quand nous ressentons l'appel de Dieu, quand nous sommes inspirés par son appel, par sa parole, par son instruction, et quand nous considérons le fait que c'est Dieu qui met ses paroles devant nous, c'est Dieu qui nous donne cette instruction. Des fois, je parle avec les membres de l'Église et ils me disent, j'ai écouté un sermon cette semaine qui, en fait, était exactement ce que, pour moi, ce qu'il me fallait. Donc, ils avaient la tête, l'esprit pour recevoir la parole de Dieu et Dieu a donné quelque chose de très important pour eux, une instruction qui correspondait parfaitement à ce qu'ils vivaient, ce qu'ils avaient à considérer dans leur vie. Mais quand nous parlons de l'appel de Dieu, nous connaissons le verset 44 de Jean, chapitre 6. Jean 6, 44. Je vous invite à vous reporter avec moi à Jean, chapitre 6. Parce que, même si nous connaissons le verset 44, il est suivi par le verset 45 aussi, qui nous intéresse beaucoup. beaucoup aujourd'hui. Jean 6, 44 et 45. Nous voyons ici que ce n'est pas seulement, encore une fois, le fait d'entendre, c'est encore plus. Il faut écouter, mais aussi, nous allons voir quelque chose ici, qu'il faut aussi répondre à l'appel de Dieu. Jean 6, versets 44 à 45. Nul peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Le verbe à la fin, le verbe venir, est très important parce que c'est un verbe d'action. Ça veut dire qu'on vient à lui, on change, on répond à cet appel. On entend l'instruction, on l'écoute bien, et puis on a envie de changer quelque chose, de faire quelque chose, de s'approcher à Dieu. Il faut comprendre que c'est Dieu le Père qui nous appelle. C'est sûr, Jean 6, 44 nous explique que c'est le Père qui nous appelle. Ses serviteurs prêchent l'Évangile. Ils sèment la parole, mais c'est Dieu qui fait croître. La mission de l'Église la plus importante, c'est de prêcher l'Évangile, même si pour accomplir cette mission d'une manière efficace, il faut un corps spirituel en bonne santé. J'ai souvent entendu l'explication que l'Église marche sur deux pieds, prêcher l'Évangile et préparer l'épouse. Sans un ministère et des assemblées pour accueillir les nouveaux appelés, l'Église ne peut pas accomplir ses deux objectifs majeurs. Elle ne peut pas non plus survivre longtemps et elle n'aura pas un impact vraiment au niveau spirituel. Car il faut, par exemple, que ceux qui soient appelés puissent demander le baptême, puissent rencontrer des frères et sœurs. Il faut qu'ils puissent passer dans les assemblées. Donc, il faut une église en bonne santé pour accueillir ceux que Dieu est en train d'appeler. Le Père attire, mais on peut dire qu'il attire des gens envers Christ, c'est sûr, mais pour que ces gens puissent croître vraiment et pour que l'œuvre de l'Église soit accomplie, il faut ces deux pas. Il faut ces deux aspects, prêcher l'Évangile et aussi préparer l'épouse. Considérons Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55, à partir du verset 2. Ésaïe 55 et le verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. L'Éternel a un plan pour chacun d'entre nous, mais il a également un plan pour tout le monde, collectivement. Son appel à la vérité implique un changement d'habitude. Tout comme qu'on achète les mêmes choses au marché chaque semaine, presque, les choses que nous achetons quotidiennement ou hebdomadairement, c'est le pain, le lait, le beurre, etc. C'est l'Éternel qui nous appelle à dépenser notre temps, notre énergie à écouter sa voix, à manger ce qui est bon, à s'approcher à lui, à faire partie de sa famille spirituelle. Il voudrait nous guider. Mais il faut pas qu'on soit sur de mauvaises habitudes. Il nous appelle au changement. Ésaïe 55, maintenant continuons à lire au verset, quelques versets suivants, quelques versets plus loin. C'est le verset 11. Au verset 2 et 3, nous avons quand même lu l'idée d'écouter pour avoir la vie. Ici, continuons cette idée ici, au verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. » Voici ce joli chant sonore décrit par Ésaïe et qui représente la voix de l'Éternel Dieu. C'est comme une invitation. Aujourd'hui, les invitations en forme de carte sont souvent très jolies et des fois, elles sont prometteuses d'une soirée très agréable. Quand nous sommes invités à dîner avec quelqu'un et quand nous avons peut-être une soirée organisée et nous recevons des invitations, souvent, l'invitation et le menu est très agréable. L'appel de Dieu est comparé par Jésus à une invitation dans la parabole des noces. Matthieu chapitre 22, Matthieu 22, commençons à lire à partir du verset 2, une invitation, un appel de Dieu, ou l'appel de Dieu, est comparé à une invitation. Matthieu 22, au verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Au verset 5 et 6, nous voyons que plusieurs n'estimaient pas l'invitation qu'ils avaient reçue. Si on n'estime pas l'invitation, si on n'estime pas l'appel de Dieu, comment estime-t-on celui qui l'a envoyé? Comment estime-t-on celui qui nous a appelés? Le temps passe et le monde et le pouvoir derrière le monde sont séduisants pour plusieurs personnes. Même s'ils sont invités, tout le monde n'acceptera pas l'invitation. Cet appel est un appel à repentir et à croire au royaume de Dieu. Il y en a qui refusent cette invitation, malgré les promesses de Dieu. Il y a quelque chose qui manque. Reportons-nous maintenant en Apocalypse, chapitre 17. Apocalypse 17, verset 14. Je vais juste lire un extrait de ce verset ici. Parce que nous avons ici trois catégories de ceux qui sont appelés. Tous les trois de ces catégories, ce sont des gens qui sont appelés. Au verset 14, les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Donc, nous avons trois catégories, mais les élus ont été appelés. Les fidèles ont été appelés. Mais pour ceux qui ne sont pas dans ces deux catégories, ça veut dire qu'il y en a qui sont appelés, qui n'ont pas encore répondu à l'invitation. Donc, il faut bien comprendre que l'invitation de Dieu à venir auprès de lui est très importante et demande une réponse. Donc, si nous avons des oreilles pour entendre, nous écouterons l'appel de Dieu. Passons à une deuxième chose, la sagesse. Une deuxième chose qui a qu'il faut écouter, à qui il faut écouter attentivement avec nos oreilles, avec nos cœurs, c'est la sagesse. Au Proverbe chapitre 1, la sagesse est personnifiée comme une femme qui crie dans les rues, une femme à qui personne n'écoute. Ceci est présenté dans un contexte d'un père qui est en train d'éduquer son fils. La sagesse aidera le jeune homme à faire de bons choix dans sa vie. Elle l'assiste à éviter le mal, les séducteurs, les mensonges, les attaques. Cette sagesse consiste d'un côté pratique, bien sûr. Et la vraie sagesse est un don de Dieu, une capacité à bien mettre en application la loi de Dieu. La sagesse implique également le bon jugement, car le monde possède sa propre sagesse qui est contre la voie divine. Le monde peut nous tromper. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur le fait de discerner entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Ici, après après la plainte de la sagesse personnifiée au Proverbe, il y a au verset 33 une promesse. « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Si on poursuit la sagesse, on cherchera à écouter des personnes qui correspondent à la définition d'un sage. En même temps, on fera attention de ne pas devenir séduit par les mensonges du monde. On s'approche à Dieu, surtout afin de demander de l'aide à discerner la sagesse. Reportons-nous au chapitre 22 de Proverbes. Proverbes chapitre 22. Nous y trouverons un passage qui nous pousse à écouter les paroles des sages, à mettre en application la sagesse. Proverbes chapitre 22, à partir du verset 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentées ou présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Notons ici que le sage, aux yeux de Dieu, nous encourage de faire confiance à l'Éternel. Attention à ceux qui se déclarent sages et souhaitent que tout le monde les suive. Voici un signe d'un homme sage. Il s'appuie sur la Bible. Reportons-nous maintenant à l'épître de Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3. Jacques chapitre 3. Ici, Jacques prononce un avertissement concernant ceux qui se mettent à enseigner. Pour les membres, il y a un risque à écouter ceux qui enseignent sans être confirmés, sans être validés, ceux qui se mettent à enseigner sans se soumettre à l'autorité de l'Église, par exemple. Des fois, il y a un membre qui se sent inspiré à enseigner, mais qui ne voudrait pas passer par des étapes nécessaires. Donc, il ou elle commence à engager dans des discussions où il parle longtemps et laisse venir d'autres personnes afin qu'elles puissent entendre aussi. Puis, ce n'est plus une discussion, mais une sorte de petite leçon qui se passe. Les membres de l'Église sont avertis, mais ils ne pensent pas aux circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Ils ne voient pas de danger, mais le simple fait, des fois, d'écouter attentivement ce type de discours sert des fois à encourager celui qui s'engage lui-même à enseigner. Juste le fait de s'approcher à cette personne, de l'écouter, on a tendance à dire oui de temps en temps et confirmer ce que cette personne va dire, même si c'est vraiment un effort de nous enseigner, de nous instruire, au lieu de simplement partager une connaissance avec d'autres personnes. Jacques continue au verset 13 avec d'autres idées pour discerner entre la sagesse d'en haut et la sagesse du monde. Verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, verset 17, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. La sagesse est complète avec ses aspects. Ceux qui ont des oreilles à écouter écouteront la sagesse d'en haut, pas la sagesse du monde. Une troisième chose à qui il faut écouter attentivement, avec nos oreilles, avec nos cœurs, c'est la prophétie. Reportons-nous à Deutéronome chapitre 18. Deutéronome 18. Depuis l'époque d'ancien Israël, l'Éternel suscite des prophètes d'entre son peuple. Et le prophète ultime est Jésus-Christ. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Je trouve très intéressant ici ce rappel du fait que ancien Israël, le peuple d'ancien Israël, ne voulait même pas entendre la voix de l'Éternel. Ils avaient trop peur pour écouter la voix de Dieu. Ils avaient trop peur pour voir le grand feu dont il est mentionné au verset 16. Il ne voulait pas écouter. Il ne voulait pas écouter la prophétie. Il ne voulait pas écouter la voix de l'Éternel. Les prophètes de Dieu dans la Bible sont assez nombreux. Et Dieu les a donnés de différentes missions et de différents messages. Mais surtout, les prophètes de Dieu sont appelés à avertir le peuple. Aujourd'hui, les prophéties de la Bible sont annoncées, déclarées, publiées et expliquées par le ministère de l'Église, par l'Église et les membres de l'Église. Et ceci fait partie du mandat confié par Jésus en Matthieu 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est ça la mission de l'Église aujourd'hui. Et c'est quand même un corps spirituel, mais composé de personnes, composé d'hommes et de femmes. Et c'est ce corps physique et spirituel qui accomplit la mission de l'Église. Mais au lieu de se reporter à l'évangile de Matthieu, reportons-nous à l'épître aux Romains. Romains chapitre 10 et le verset 14. Romains 10 et le verset 14. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plusieurs fois aux Actes, des groupes de Juifs ou d'autres, de gentils, ont essayé de réduire au silence la prédication de l'Évangile par les apôtres. Mais Dieu a fait en sorte que l'Évangile soit prêché dans une époque tumultueuse, malgré tout. L'enseignement a été entendu et même préservé jusqu'à nos jours. De nouveaux prédicateurs ont été appelés et une nouvelle génération a grandi dans l'Église. Et de génération en génération, l'Église existe depuis cette époque-là. Reportons-nous à 2 Timothée, 2 Timothée, chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 2. L'apôtre Paul a assuré la relève avec son apprenti Timothée, qui avait besoin d'apprendre sur le terrain. 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 1. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Paul ici voyait le lien entre l'écoute avec le cœur et l'éventuel besoin d'hommes capables à enseigner. Timothée s'est montré capable et fidèle. Dans l'Église aujourd'hui, nous considérons dans le cadre de l'éducation non pas seulement les connaissances d'un enseignant, mais aussi comment cette personne estime ses connaissances et comment elle les explique. Reportons-nous à Jean chapitre 12, l'évangile de Jean chapitre 12 et le verset 46. Nous trouvons ici une clé pour ceux qui sont les enseignants, les prophètes de l'Église, les prédicateurs aujourd'hui. Jean 12 et le verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même. » C'est le verset 49. Jésus dit, « Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je l'ai dit comme le Père me les a dites. Ceux qui ont des oreilles à entendre écouteront la prophétie dans la forme de l'instruction ou des avertissements. Mais il faut que ceux qui prêchent, qui enseignent, il faut toujours qu'ils s'appuient sur la parole de Dieu et qu'ils soient conscients du fait que c'est c'est quand même Dieu qui est en charge. Et c'est Dieu qui doit choisir les bonnes paroles pour le bon enseignement. Si on s'appuie sur nous-mêmes, nous allons vite tomber à côté. Alors, maintenant, nous sommes tout oui. Nous allons écouter attentivement la parole de Dieu. Que ce soit la parole de Dieu prêchée, que ce soit la parole de Dieu que nous lisons dans la Bible, préservée pour nous, il y a aussi la possibilité de un peu lire ou regarder la parole de Dieu en marche. C'est chez les membres de l'Église. Ce sont les exemples de chacun d'entre nous. Nous sommes là pour briller, pour être des lumières dans le monde. Ça, c'est une lumière visible, une lumière qui peut avoir un impact aussi. Donc, l'exemple va très bien avec ce que nous disons. Ça, c'est un bon exemple, quand nous vivons ce que nous disons. Mais maintenant, nous allons écouter attentivement la parole de Dieu. Nous avons chaque semaine l'occasion de se trouver ensemble avec d'autres frères et sœurs et de se réjouir avec eux du fait que Dieu nous a appelés. Dieu nous a donné sa sagesse. Dieu nous a donné des prophètes. Il a préservé les prophètes et les instructions dans sa Bible, dans sa parole, la Bible. Et aujourd'hui, il nous a donné l'occasion de faire partie de l'Église de Dieu qui attend le retour de Jésus-Christ. Mais il faut aussi, quand nous écoutons, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut que nous soyons des exemples pour d'autres que Dieu était en train d'appeler. Ça ne s'arrête pas avec nous, avec notre propre groupe, avec notre propre famille. Dieu est en train de faire quelque chose de beaucoup plus grand. Il prépare aujourd'hui ses prémices pour l'avenir. Reportons-nous maintenant à Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Un dernier passage avant de terminer aujourd'hui. Jacques chapitre 1. Jacques nous explique ici l'importance de cette mise en pratique, de notre exemple. Et c'est très clair ici que écouter et réagir ou faire quelque chose, la mise en pratique, sont quand même dépendants l'un à l'autre. Jacques 1, verset 19, pour commencer. Verset 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Ça me rappelle de l'expression « Ce n'est pas par hasard que Dieu nous a donné deux oreilles et une bouche. » Verset 23. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est l'idée de persévérer, l'idée de continuer à mettre en œuvre l'instruction que nous recevons de Dieu. Ce que nous écoutons, ce que nous entendons, de ne jamais laisser passer ce que Dieu a préparé pour nous instruire. D'après Jacques, ceux qui écoutent et mettent en pratique l'instruction de Dieu seront heureux. Mais pourquoi? Nous avons lu tout à l'heure dans Jacques 3, verset 17, que la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. N'est-ce pas la description d'une vie heureuse? Si on essaye de vivre une vie heureuse et on n'a pas de sagesse d'en haut, vous allez voir que on n'aura pas ces bons fruits dans notre vie. Et en plus, ceux qui écoutent la loi et la sagesse de Dieu aujourd'hui, bien sûr, ceux qui écoutent ces choses anticipent sa voix, la voix de Jésus-Christ à son retour et à la résurrection des saints. Donc, nous avons beaucoup envie d'entendre et d'écouter la voix de l'Éternel, la voix de Jésus-Christ à son retour. D'après la Bible, entendre n'est pas suffisant. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter l'appel de Dieu. Il faut bien écouter la sagesse de Dieu et il faut bien écouter la prophétie biblique. Réjouissant en sachant que Dieu nous a donné des oreilles pour entendre.